Bien, écoutez, bienvenue pour cette dernière séance de l'année du séminaire de la chaire Éthique et Finance que nous organisons avec Emmanuel Picavet ici au premier rang et Annie Cotte qui n'est pas là parce qu'elle, ce soir, il y a l'autre fin de séance du séminaire d'épistémologie qui est à la Maison des sciences économiques de Paris 1 et par conséquent, là aussi, il y a une concurrence sur les événements. Voilà, nous accueillons ce soir Hubert Rodary et Thomas Bocon-Gibault qui vont venir aborder la question de la régulation financière et débattre de la pertinence de la métaphore cybernétique pour éclairer les questions en cours sur le sujet. Je vous rappelle que les métaphores sur la régulation sont nombreuses. On a eu des métaphores cosmologiques, physiologiques, mécanistes. Et donc Hubert Rodary a introduit une quatrième métaphore avec la métaphore cybernétique. Voilà. Et donc on verra en quoi cette métaphore est intéressante. Et Thomas Bocon-Gibault ensuite présentera une contribution sur une discussion par rapport à cette idée de régulation et de cybernétique. Juste avant de commencer, juste une annonce. Dans le dernier numéro de la revue Banque, ici, qui vient de sortir sur la finance américaine, grande gagnante de la crise, il y a un article que j'ai fait sur la proposition, justement, d'une autre finance que l'école américaine du risque, dont on parlera à la rentrée dans une session qu'on organisera en octobre, qui pourrait mettre en place des approches, on va dire, non anglo-saxonnes, qui serait ou non dite d'une école française de finance au sens où travaille dessus le centre des professions financières sous la présidence de Michel Pébro. Donc ça, on en parlera en octobre. C'était une annonce pour vous dire de garder maintenant la date du 12 octobre pour cette séance. Donc voilà, je vais passer la parole à Hubert Rodary que vous devez connaître pour l'avoir vu dans cette session de la chaire déjà deux ans, voilà. Et par ailleurs, avec qui nous travaillons à la SMA, avec Emmanuel Picavet, au groupe d'assurance SMA, sur les notions de normes financières et de risques de régulation. Le groupe SMA ayant lancé à la fondation ici de la MSH une initiative de recherche sur la question des normes financières et de la régulation et du risque de régulation. Et donc, dans le cadre de ce programme de travail, on examine de manière assez à la fois empirique et en même temps généraliste, les enjeux liés à l'actuelle régulation financière en creusant la notion de régulation socialement responsable au sens où on parle de DSR et de RSE. Et là, ce qui anime, mais Hubert pourra en parler aussi mieux que moi, l'attention de ce groupe SMA-MSH, c'est de réfléchir sur les conséquences négatives d'une mauvaise régulation, d'une part, et sur ce que pourrait être la construction, l'élaboration d'une autre forme de régulation qui serait donc socialement responsable, une éthique, en fait, de la régulation. Donc voilà, je laisse la parole donc à Hubert Rodary, qui est le directeur général délégué du groupe SMA, et qui pourra se présenter mieux que je ne le ferai moi-même. Merci Hubert d'être revenu comme fidèle ici à la fondation de la MSH et à la chaire. Et donc maintenant, c'est à toi de présenter le thème que tu vas exposer.
Très bien. Merci Christian. Alors, c'est vrai qu'être à la fondation de la Maison des sciences de l'homme, pour nous, n'est pas une nouveauté, puisqu'avec Christian, nous arpentions déjà ces couloirs en 1995 pour financer un programme à l'époque. Alors, donc merci à la fondation de m'accueillir. Merci de donner l'occasion d'exposer des idées. Et à la suite d'une remarque de Christian, il me disait « Mais si, tu as tout à fait la légitimité de parler devant un public savant et d'en faire partie, puisqu'il m'a dit « Compte le nombre de pages que tu as écrites. » Et là, je suis arrivé à pas loin de 1000 pages écrites et publiées. Effectivement, ça commence à peser au moins le poids du papier. Hein. Alors, de façon plus sérieuse, la réflexion que je vais vous proposer, C'est un essai qui est tiré à partir d'un certain nombre de thèmes qui ont été abordés dans l'ouvrage, mais essai dans l'ouvrage qui était, je dirais, enserré dans un récit économique, dans une analyse économique, dont on a essayé de tirer cette problématique cybernétique qui a été employée, comme l'a dit Christian, comme métaphore pour éclairer, pour essayer de présenter, de formaliser une image du système qui est actuellement en train de se déployer de plus en plus finement au travers de l'ensemble du système économique et qui contribue à sa maîtrise. Alors, pour ce faire, je vais donc essayer de structurer mon propos là autour d'une introduction avec un regard sur la situation actuelle du système financier. Donc, en faisant toujours, et ça c'est ma double qualité de, j'allais dire, d'abord de professionnel et de scientifique, et de scientifique et de professionnel, qui permet d'avoir une vision réflexive et de réflexion hein, sur un réel que je pratique, hein, auquel je participe tous les jours, avec cette capacité à discerner les enjeux et les thèmes. Alors, la première partie de ce point, c'est donc l'intérêt de cette grille d'analyse de cybernétique, et après, on va essayer de voir les résultats de cette application à l'économie et à la finance. Alors, pour caler quand même le sujet, notre système actuel, il est structuré. Ce n'est pas un magma de choses inorganisées. Et j'ai l'habitude, au cours de mes ouvrages, d'en discerner trois domaines. Le premier, c'est l'économie mondiale, au sens de ce qu'on appelle dans les journaux l'économie réelle. Mais je m'oppose tout de suite au fait d'opposer une économie dite virtuelle ou irréelle, qui serait le domaine de la finance, avec une économie réelle. Pourquoi ? Parce que si elle était virtuelle, les crises financières n'auraient aucun impact. Donc c'est du réel, mais c'est du réel immatériel. Donc dans cette économie mondiale, structurée par les entreprises et les pouvoirs politiques, l'objectif c'est de développer la croissance, créer et développer les échanges pour développer la croissance. Et l'idée fondamentale, c'est la loi de Ricardo-Mill, ou plus exactement ce que j'appelle la stimulation ricardienne, c'est-à-dire le choc de compétitivité que l'on crée entre deux zones et que l'on maintient artificiellement à un certain niveau pour stimuler les échanges et les commerces. Donc c'est une organisation qui est structurellement voulue comme déséquilibrée. Déséquilibrée structurellement, alors que les théories dominantes néo-keynésiennes classiques n'envisagent l'économie que comme un équilibre général ou une succession d'équilibres, et en aucun cas comme l'entretien de déséquilibres structurellement figés. Alors le deuxième point, c'est le système monétaire international, et c'est la confrontation entre zones économiques marquées par la souveraineté monétaire, c'est-à-dire une monnaie, une zone monétaire. Et donc l'objectif du système monétaire international, c'est faciliter l'investissement transnational, c'est gérer les flux, les stocks de marchandises et d'échanges de valeurs, de contre-valeurs financières qui leur sont liées. Il y a des effets, il y a des dominantes, c'est la problématique de réserve d'échange, de dette internationale. Et la théorie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puisque la macroéconomie ne pense pas le système monétaire international. Et qui plus est, et c'est une idée que je caresse depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il n'y a plus de système monétaire international au sens du mot « système ». Et j'ai été rejoint récemment dans cette opinion par une autorité, M. de La Rosière, ancien directeur général du FMI, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien, donc membre éminent du système financier, qui a dit « il n'y a pas de système au sens de système monétaire international, puisqu'il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus de coordination depuis qu'on a mis fin au système de Bretton Woods en 1971 ». Par la fin de la convertibilité du dollar en or. Après, il y a un troisième point, il y a les activités économiques classiques dans les zones. Et là, l'objectif aujourd'hui, c'est une régulation à caractère universel qui est fondée sur la science. Et l'idée, c'est la promotion de l'autorégulation avec des organisations qui sont toutes bâties sur le même thème, des structures à but défini et des effets de rétroaction à partir d'une validation de ce que produisent ces organisations par rapport à son objectif. Et là, vous avez tout un nombre de théories qui justifient, dont éventuellement la cybernétique, la mesure du risque, la systémique, le constructivisme, et là, on peut en mettre un certain nombre. Le problème, c'est que toutes ces théories posent problème. Voilà, c'est-à-dire toutes n'ont pas un degré de scientificité, d'efficacité, de vérifiabilité que l'on puisse dire eh bien les structures de ces systèmes sont solidement établies. Alors si on regarde de façon un peu macroéconomique, qu'est-ce qu'on constate très facilement, et là on pourrait en donner des tas d'exemples, c'est l'affaiblissement des autorités étatiques nationales, c'est le renforcement des autorités interétatiques. Et c'est-à-dire que vous avez une promotion d'accords qui s'apparentent plus à des accords internationaux, sans autorité surplombante, au détriment d'organisations, on peut dire, hiérarchisées, avec une tête et un certain nombre de supports. Donc, pour se substituer à l'organisation, je dirais, étatique classique, hiérarchisée, et plus des accords de type internationaux, vous avez la mise en place d'autorités dites épistémiques, donc qui sont porteurs d'un savoir et qui introduisent une notion technique à l'ensemble des sujets qui sont traités dans le cadre de ces accords. Et donc, ce qui est assez logique, ces autorités émergent par type d'activité et elles enclenchent une gouvernance de l'ensemble des secteurs qu'elles sont censées réguler par but, processus, pilotage, et le tout étant légitimé par des savoirs savants calés, bien évidemment, sur des reconnaissances universitaires fortes, dont prix Nobel, professorat, etc., comptage d'articles dans beaucoup de revues qui comptent, etc. Au niveau microéconomique, c'est-à-dire dans la vie de l'entreprise, c'est un mystère pour tout le monde, pour personne plutôt, que les activités économiques les plus banales se sont complexifiées à un point invraisemblable. Et que, en plus, chaque activité, aussi modeste soit-elle, fait l'objet maintenant d'une régulation, c'est le mot que l'on emploie, uniformisante et prescriptive. Donc les mots sont assez forts, hein, et sont très qualificatifs. Donc règles dites de gouvernance qui imposent des principes identiques, et vous aviez une disparition du métier au profit de la fonction. Et ça, c'est vrai à la fois par type d'activité, à l'intérieur de chacune des entreprises, la notion de métier ou de personne incarnant un métier commence à disparaître et la remplacer simplement par une définition qui n'est plus personnifiée. Hein, c'est le mot fonction. Et de façon un peu même gaguesque, pour vous donner du vécu du quotidien, on se moque de nos amis qui sont titulaires de fonctions réglementaires, et on leur fait bonjour, fonction actuarielle, bonjour, fonction audite, comment vas-tu, fonction. Vous voyez, c'est-à-dire que la réglementation disqualifie la personne humaine et la transforme en la réduisant à son aspect fonctionnel. Donc il y a ce qu'on peut appeler une réduction économiste de l'entrepreneur compétent, une réduction positiviste des financiers. Hein, on ne fait plus référence au métier, à la perte du flair, à la prudence. Non, il faut rentrer dans un ensemble fonctionnel. Pour donner aussi une petite anecdote, par exemple, quand j'ai passé quelques années dans un établissement bancaire, il y avait un de mes prédécesseurs, directeur général, qui dit « Ben voilà, ce qui est important dans une agence bancaire, c'est quelqu'un qui sait renifler le papier d'escompte. » Et il prenait la pile d'escompte et voilà. Et il disait « Bon, voilà, il y a un métier à voir, quel est le support qui risque d'être foireux malgré sa présentation irréprochable. » Voilà. Donc ce sens du métier, il disparaît et il est d'une certaine façon traqué. Donc si je donne, madame, c'est pas bon. Voilà, je vais me mettre là. Voilà. Bien. Donc le regard sur le système actuel, si j'essaye de synthétiser tout ce que je viens de vous exposer, c'est un développement depuis 1945 essentiellement fondé sur des déséquilibres voulus et entretenus. Une justification de l'organisation théorique par la science, mais il y a beaucoup de flou, il y a un épuisement des trésoreries, des théories, comme on dit, et qui apparente plus la science explicative, justificative, à un discours sur l'économie. Alors face à cette problématique de d'épuisement des théories, d'épuisement de la capacité explicative de ces théories, de ce discours qui ressemble plus à un processus de conviction plutôt que du storytelling, plutôt que de la conviction au sens fort du terme, il y a la nécessité donc de maîtriser, de contrôler face aux effets néfastes que l'on ne cesse de constater et qui de façon un peu métaphorique peuvent être illustrées par la succession des crises qui arrivent, qui surviennent dans le dispositif à un intervalle, des intervalles que l'on trouve, de mon point de vue, vraiment trop régulières et dans lesquels on a l'impression que tout le monde bute à intervalles réguliers sur des sujets qui sont toujours les mêmes. D'où il y a une systématisation du prescriptif obligatoire. Alors c'est un peu une redondance, mais c'est pour bien insister, ce prescriptif, il n'est pas optionnel, il est obligatoire par l'installation d'un dispositif bureaucratique qui a pour but de disciplinariser, hein, de discipliner l'ensemble des agents économiques. Alors, cette fonction bureaucratique, à la fois décentralisée et centralisée, parce qu'il y a une unité de la science et une cohérence entre toutes les entités, mais qui est décentralisée parce qu'elle s'incarne dans chacune des cellules autorégulées. Et donc c'est un aspect qui n'est pas si simple que ça à percevoir. Là, je vais vous proposer une ouverture, hein, dans un domaine dans lequel je ne suis pas grand spécialiste, mais il me semble y retrouver ce que Michel Foucault appelait la présence d'un discours et d'un dispositif. Enfin, c'est pour ça que j'avais employé les mots antérieurement. Dans la planche, le dispositif étant donc justifié par le discours et le discours permettant l'implantation d'une biopolitique, c'est-à-dire d'un contrôle des individus bien plus qu'un contrôle des territoires. Donc s'il y a disparition des autorités étatiques, il y a disparition du politique, c'est une disparition du politique qui se qualifie en général par l'exercice d'une souveraineté commune sur un territoire défini, notamment par ses bornes, on le remplace par une maîtrise des individus et une activité qui se fait transfrontalière. Voilà, donc c'est ce que j'ai appelé cette biopolitique, cette pente despotique de l'économie mondiale, qui est la biopolitisation des individus. Alors, en première partie, intérêt de la grille cybernétique. Alors ici même, il y a 2 ans, j'avais présenté ou j'avais représenté la cybernétique qui, à l'image de cette salle, elle est un peu oubliée. On en parle peu parce que dans les années 85, elle s'est perdue un petit peu dans les sables. Et la dernière fois, quand je l'avais parlé, il y avait certaines personnes bien introduites, connaissaient bien cet enfouissement de ce qui avait été présenté comme une science à partir des années 40, lorsqu'elle a émergé, sous l'impulsion de M. Wiener, mathématicien américain assez génial, qui, dans les années 40, s'est réuni avec un certain nombre de neurophysiologues, de physiciens, d'ingénieurs, avaient essayé de transposer ce qu'ils voyaient de la capacité du vivant à contrôler des gestes à partir d'instructions simples, un ensemble de gestes complexes à partir d'instructions simples. Comment est-ce qu'on pouvait d'abord définir, extraire ce qu'on voyait dans le naturel, et comment est-ce qu'on pouvait rétropoler cette observation dans le cadre de l'organisation notamment donc dans les machines, c'était son premier but, hein, dans l'organisation sociale des activités entre les personnes. Donc la cybernétique donc a mis en avant, a étudié ces interactions entre systèmes dits gouvernants ou systèmes de contrôle et les systèmes gouvernés ou systèmes opérationnels et qui sont régis par ce processus de rétroaction ou feedback en anglais. Et cybernétique veut dire tout simplement gouverner. Alors il y a une petite controverse en disant que ce n'est pas M. Wiener qui a introduit ce mot cybernétique, mais c'est un Français, je crois que c'est Ampère, au début du 19e, qui avait déjà utilisé ce terme. Mais néanmoins, quoi qu'il en soit, cette théorie, cette formalisation de ce contrôle des systèmes opérationnels par des systèmes gouvernés et la façon dont ils communiquaient entre eux a été très très riche, notamment puisque ça a immergé, innervé un certain nombre d'autres théories, la théorie des jeux, la théorie des systèmes, la théorie des systèmes complexes, etc. Donc c'est quelque chose qui a été l'intelligence artificielle, vous savez, cette espèce de monstre qui ressort tous les 20 ans dans les systèmes techniques, hein, puis ces échecs, on remonte, là on est dans une période plutôt de remontée, de mise en avant de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un thème qui était au départ lié à cette émergence de cette réflexion sur la façon de communiquer dans les systèmes. Voilà, donc qu'est-ce qu'a mis en avant donc la cybernétique? C'est cette notion de machine auto-adaptative ou cellule de production téléologisée auto-adaptative. Alors là, je redis déjà ce que j'ai constaté, c'est-à-dire organisation par but d'ensemble, donc téléologisée, et auto-adaptative par un dispositif de rétroaction. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans ce schéma qui se passe de commentaire, c'est le dispositif de validation, c'est ça, pas simplement un dispositif de reconnaissance si c'est bien ou si c'est pas bien ce qui est produit. C'est qu'il a la double fonction d'éliminer ce qui n'est pas bien et de rétroagir sur le processus de fabrication pour que la production suivante tende vers la production souhaitée. Donc c'est ça le point important, c'est l'effet de rétroaction. Et donc l'effet de rétroaction, comme disent les ingénieurs qui font des automates programmables avec effet feedback, fait qu'au bout d'un certain temps de fonctionnement, la réponse libre du système tend vers zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez une valeur d'atteinte, après, on atteint strictement cette valeur d'atteinte au bout d'un certain temps. Donc, vous avez défini ce qu'on appelle un système asservi. Les mots sont importants. Et service, servus, veut dire l'esclave en latin. Voilà. Alors, la rétroaction, est-ce qu'elle est dangereuse? Ça, c'est une question qu'on peut se poser déjà en tant qu'organisateur d'activités humaines. Et ça me fait toujours, donne toujours une occasion de dire oui, bah, si on veut produire quelque chose, si on rétroagit, c'est une idée de bon sens que ça ne peut pas être nécessairement mauvais. Et là, je pense que c'est un peu le sens aussi de mon livre, c'est que les idées de bon sens ne vont pas toujours dans le bon sens. Voilà. C'est un point qu'il faut... j'aime bien les bons jeux de mots, mais celle-là, elle est pas mal. Je le mettrai non plus à l'interrogation, sous le mode interrogatif comme sur la planche, là, mais sur le plan d'affirmation. Alors pourquoi est-ce que la rétroaction peut être un processus d'enjeu? Eh bien, il y a un point important, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause des principes de conception et des règles que ces principes de conception ont permis de mettre en place. Ce qui veut dire que la rétroaction ne va jouer que sur les procédures de collecte de données, les procédures de normalisation des processus et sur l'encadrement technocratique, hein, les contrôles tout au long de ces processus qui ont été définis. Donc c'est très important de voir que dès que vous êtes dans un système de rétroaction, vous êtes en système asservi. C'est-à-dire, vous devenez esclave d'un dispositif, vous devenez esclave des bons principes ou de la qualité des principes de conception. Ça, c'est très important. Et c'est un point, par exemple, que j'ai retrouvé dans Zinoviev, dans une analyse du système soviétique, dans un livre qui n'a pas eu énormément de succès, qui s'appelle « Le communisme comme réalité », qui a été regardé avec beaucoup de méfiance par l'intelligentsia européenne et américaine. Et il a dit, dans le système soviétique, il y a des principes, il y a une logique d'action qui est liée à un dispositif d'autorégulation. Et le problème, c'est qu'on subit la logique du principe qui est au cœur de l'organisation qui bénéficie ou qui comporte un phénomène de rétroaction. Alors après, le problème d'une conséquence d'une rétroaction inadaptée, eh bien, c'est que ça dysfonctionne régulièrement. C'est-à-dire que le système asservi ne se cale pas sur la valeur. Si la valeur retenue n'est pas bonne sur le plan social, eh bien, il y a toujours une insatisfaction à la production et la rétroaction ne fonctionne jamais. Et donc, ça, c'est parfaitement décrit dans des tas de littérature. Vous avez une rigidification progressive du système et une fragilisation, parce que qui dit rigidité dit inadaptabilité aux événements différents qui peuvent que ceux qui sont pris en compte dans le dispositif. Et cette rigidification, elle procède tout simplement parce qu'on va chercher de plus en plus la petite bête. On va chercher là où a survenu l'erreur. Et à chaque fois, on met ce qu'on appellerait un patch, pouf, hein, une rustine, et hop, hop, hop. Et on a une complexification de l'organisation qui la rigidifie, qui la rend inapte à franchir quelque chose qui pourrait survenir. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que dans son ouvrage dernier ouvrage sur le sujet, qui a connu un certain succès à l'époque, au début des 60. Pourquoi est-ce que Wiener, en parlant de ces dispositifs, avait-il parlé de golem ? Alors le mot golem, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ça fait référence à la mythologie juive. Et le golem, c'est une fabrication, c'est ce qu'on pourrait appeler un robot, mais à l'époque le mot n'existait pas. Un robot qui a été fabriqué par l'homme et qui tout d'un coup perd et le contrôle est perdu. Hein. Si vous vous souvenez de Mickey avec son balai dans le comment ça s'appelait donc Fantasia. Voilà, je cherchais Fantasia. Effectivement, la figure du balai est ce golem tout d'un coup dont l'apprenti sorcier va perdre le contrôle. Alors pourquoi est-ce que lui avait parlé du golem ? Parce que dès le départ, il avait vu, ils avaient postulé dès les années 40, avec son confrère dont le nom va revenir, ils avaient postulé l'identité des êtres vivants et des objets techniques autorégulés. Donc ils avaient fait vraiment une hypothèse très très forte en disant ben, nous ne sommes qu'une addition complexe, un système constitué par des objets techniques autorégulés. Donc, ça postulait la capacité d'avoir ce qu'on peut appeler une démarche constructiviste, éventuellement dangereuse, aboutissant à la création d'entités autonomes, mais asservies à des principes de gestion et d'action inappropriés. Donc, très vite, il a montré que la problématique de la qualité des principes était essentielle, et compte tenu de l'état de la science dans un certain nombre de sujets, il en avait conçu une extrême prudence. Et c'est un peu l'avertissement qu'il donnait dans ce livre God and Golem. Et de mon point de vue, c'est une des raisons pour laquelle la cybernétique s'est perdue dans les sables de la notoriété. Parce que, contrairement à d'autres qui ont conservé, comme Hayek ou von Mises sur le plan libéral, une volonté de diffusion de leurs idées au travers de la Société du Mont-Pèlerin, au travers de l'intervention dans différentes académies, Wiener, moi, me semble-t-il, d'après ce que j'ai lu, me semble avoir, mais c'est une hypothèse, hein, me semble avoir perdu perçu toute la dangerosité de ce qui était potentiel dans cette construction cybernétique. Alors, pourquoi est-ce que cette démarche de construction à partir des cellules autorégulées était problématique ? Eh bien, parce que ce constructivisme va postuler que le tout est à la somme des parties. Alors là, on est loin de l'organicisme dont parlait Christian. C'est-à-dire, on va réduire un système global à la somme de ses parties. Donc, atomisation des phénomènes, réductionnisme comportemental. Voilà, tout ça, ça peut être bien décrit et rapidement compréhensible. Et ça produit quoi ? Le mimétisme, la synchronisation, la déresponsabilisation et la justification d'oligopole, puisque sans différenciation particulière, il n'y a aucune raison de ne pas additionner les parties autrefois atomisées. Et puis, il y a un point également, c'est la perte du collectif. Hein. On perd le sens du bien commun, puisque de toute façon, comme vous n'êtes pas plus en étant partie que tout, différent du tout, on ne voit pas quel est le sens du collectif dans ce sujet. Donc, ceci, je peux vous en donner des exemples concrets vécus dans le monde financier. Et notamment, je peux en affirmer aujourd'hui haut et fort le caractère dangereux, puisque n'importe quel praticien sait du marché sait qu'un marché est d'autant plus dangereux qu'il y a synchronisation des comportements. C'est quand il y a synchronisation des comportements qu'il y a en général crack, donc rupture. Rupture, c'est le versant négatif, mais le versant qui est pas non moins dangereux, c'est la bulle, hein, où tout le monde est aligné dans le même sens. La deuxième distorsion dont j'ai parlé dans mon introduction, c'est que plus rien ne bouge, et c'est la propriété d'homéostasie. La rigidité des concepts, l'absence de remise en cause, va permettre la pérennité d'une non-pertinence des discours savants qui ont été mis par l'expérience en échec. Ça, c'est quand même un problème, parce que plus c'est bête, plus on continue. Vous voyez, c'est plus on a vu que ça marchait pas, plus on renforce dans le contrôle, mais moins on est en capacité de remettre en cause le discours sous-jacent. Donc, ce conséquence de non-renouvellement des concepts, c'est ça produit de façon accentuée une inadaptabilité de plus en plus importante des dispositifs issus des discours savants. Voilà, donc, bien évidemment, ça crée mécaniquement le golem. Le golem dans lequel les individus perdent le contrôle, puisqu'ils sont soumis à la règle. Et cette perte de contrôle est à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire, vous, individuellement, vous n'êtes plus maître de ce que vous êtes en train de faire, et collectivement, en groupe, vous êtes obligé de faire ce qu'on vous demande de faire. Hein. Et ça, c'est le propre des systèmes totalitaires. Ça, c'est, comme disait Zinoviev, c'est la capacité à faire collectivement ce qu'individuellement, on se refuserait à faire. Ça, c'est vraiment la bonne définition. Après, ça a un corollaire, c'est donc la perte de responsabilité, c'est-à-dire d'engagement de soi-même dans l'action qui est faite dans le cadre de ce système, et ça donne tout de suite le pouvoir, un ressenti d'un pouvoir qui devient anonyme. Hein. Donc c'est ce que j'ai appelé l'entrée dans une robotisation des activités où l'individu n'est plus qu'une pièce mécanique d'un ensemble, mais plus une personne. Et ça traduit également ce que Günther Anders avait dit en 88, c'est une opacification croissante des activités. C'est-à-dire que l'individu se détache complètement du sujet sur lequel il travaille. Hein, et lui-même utilisait je ne sais pas si vous connaissez Anders, il avait travaillé sur la responsabilité des personnes qui avaient conduit les avions au-dessus de Hiroshima. Et il disait qu'il y avait le sentiment de perte d'appréhension des conséquences de ses propres actes. Donc, quand vous avez création d'un golem, vous avez cette distance qui s'introduit entre le sujet agissant dans le cadre de l'organisation et le sujet qui va subir cette action. Et ça vous explique pourquoi, eh bien, dans une multinationale, on peut tout d'un coup mettre 2000 personnes sur la paille sans que la personne, je dirais, d'une décision prise, mettons, à New York, qui va avoir une conséquence en Afrique du Sud, ça dérangera personne, puisque la personne sera tellement loin, et la décision prise au terme d'un processus tellement opaque, qu'on n'a plus la capacité de juger la conséquence de ses actes. Donc mon hypothèse à partir de ça, principale, c'est que l'économie, depuis 40 ans, s'est organisée comme une machine auto-adaptative qui porte cette vision mécaniciste de l'économie, où l'entreprise est vue comme un robot, les individus comme des pièces, et le tout étant asservi aux fonctions économiques de ces entreprises. Et tout ceci se construit par entreprise, par secteur économique, et également par zone complète de l'économie. Donc c'est une construction, on pourrait qualifier d'horizontale, mais qui s'étend progressivement à l'ensemble des activités sociales. Alors, les indices de validation, c'est est-ce qu'on voit cette organisation systématisée par processus et objectif ? Est-ce qu'on peut l'observer ? Est-ce qu'on recherche en permanence cette amélioration en continu des et par les contrôles ? C'est ce qu'il faut mettre en avant. Les critères de validation de l'hypothèse, c'est de voir que s'il y a organisation de cette façon, c'est qu'on va se focaliser sur la prévention de l'erreur humaine et que l'on va, de ce fait, généraliser à l'ensemble des activités économiques, quelle que soit leur nature, ce qu'on appelle l'assurance qualité, c'est-à-dire un dispositif, là aussi, issu de l'analyse cybernétique de l'organisation du travail pour permettre de réduire l'erreur. Alors, l'assurance qualité, j'ai intitulé ça « l'homme sans erreur », c'est plutôt « l'homme agissant sans erreur voilà. ». Alors, les travaux sur l'erreur humaine, il y en a eu un certain nombre dans les 30 dernières années. Moi, j'aime bien les travaux de James Reason, sociologue et psychologue anglais, qui a notamment défini un système de génération de l'erreur, ce qu'il appelle le GEMS, Generating Error Modeling System. Et à partir de là, il a construit une théorie d'abord une classification du type d'erreur et comment ces erreurs pouvaient s'enclencher dans le cadre d'organisations complexes. Alors pour nous, on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais il définit donc plusieurs types d'erreurs, d'exécution, de planification, involontaire ou volontaire. Là, quand c'est volontaire, c'est plus une violation qu'une erreur au sens propre, mais ça fait partie aussi de la vie des organisations. Et on le passe dans au tamis de trois types d'erreurs, hein, qu'on appelle, suivant la catégorisation de Rasmussen, autre tenant de l'étude sur les erreurs. selon lesquelles les actions s'organisent dans le cadre de schémas. Alors un schéma, c'est un truc très simple. C'est par exemple quand vous changez de vitesse dans votre voiture, vous faites automatiquement des gestes que vous ne traduisez pas par une action consciente. Tac, 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 embrayage, débrayage. Donc ça se fait tout simplement. L'activité selon les règles, c'est-à-dire que vous avez défini un cadre de votre action et vous suivez les étapes par étape. Je veux tourner, donc à ce moment-là, je regarde je mets un petit coup de frein, je regarde dans mon rétroviseur, à droite, à gauche, je mets mon clignotant, etc. Donc vous avez un process qui est décrit, que vous suivez. Et puis il y a l'action dans le cadre de connaissances, c'est-à-dire une expertise qui vous permet d'essayer de détecter le bon schéma qu'il va falloir utiliser et éventuellement de l'appliquer, de constater s'il fonctionne, d'en changer, de l'adapter jusqu'à ce que l'action soit faite. Donc trois modes d'organisation de l'action, par schéma, par règle ou par connaissance. Ça se traduit par deux modes de contrôle. Quand on est en schéma ou en règle, c'est des contrôles proactifs. C'est-à-dire avant l'action, on va voir si vous êtes en mesure de réaliser l'action. Et donc ça suppose de l'organisation et de la discipline. Et dans le cadre d'action uniquement sur base de connaissances, vous avez seulement des contrôles rétroactifs. Quand je vous ai essayé de vous définir le mode d'activité sur base de connaissances, je vous ai dit on essaye, on voit si ça marche, donc contrôle rétroactif, et après on change de process. Donc un objectif, c'est réduire l'erreur de type connaissance, puisque celui-là, on ne réagit que lorsqu'on a constaté qu'on a échoué. Donc c'est pas terrible. Donc il faut augmenter les activités régie par les règles, et c'est le but de l'assurance qualité, on va se mettre systématiquement dans un cadre de schéma ou de règles. Alors la preuve, aujourd'hui sur le monde financier, c'est Bernanke, donc l'ancien gouverneur de la réserve fédérale américaine, qui dit « La crise financière récente relève davantage de l'échec de l'ingénierie, du management économique que de l'échec de la science. » Ah ! Ce qui veut dire que erreur humaine de calcul, c'est défaut des systèmes de mesure de risque, c'est ce qu'il appelle l'ingénierie économique. Et l'erreur de management, c'est-à-dire que les montages financiers étaient foireux, il y a eu des ruptures de financement, il y a eu des leviers excessifs. Donc lui, la science n'est pas responsable, c'est de ressort de l'erreur humaine. Alors le problème, c'est que la finance, c'est la fabrication et le commerce d'engagement. Et qu'est-ce que c'est qu'une promesse? Elle est immatérielle, elle est décrite par une théorie, elle ne subit pas le vieillissement. Sa question, c'est être ou ne pas être tenu, et son problème, c'est l'incertitude. Demain, car demain est différent d'aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais tenir mon engagement. Donc la notion centrale de l'incertitude, c'est le temps, alors qu'un objet, lui, c'est matériel, il est décrit par des plans, il subit le vieillissement. Sa question, c'est être conforme ou pas conforme. Vous voyez, toc le schéma cybernétique, je suis conforme ou pas conforme au processus. Son problème, c'est l'erreur, et sa notion centrale, c'est l'obsolescence, hein, la perte des qualités souhaitées, ou la perte du souhait des qualités. Là aussi, on peut tourner les sujets. Donc aujourd'hui, dans le monde économique actuel, on a une assimilation volontaire dans les organisations entre l'erreur et son traitement, et l'incertitude et les moyens d'y faire face. Et donc là, on corrobore tout à fait mon hypothèse, c'est que tout se réduit à traiter des erreurs, et non pas à traiter ce qui est la réalité, c'est-à-dire l'incertitude soumise au temps. Donc l'application, ça, on peut aller assez vite, pour dire est-ce qu'un système cybernétique peut être valable, il y a deux seulement possibilités. Soit vous avez un ensemble de règles complets objectives, ça marche dans l'industrie, puisque quand vous voulez faire une pièce, vous pouvez faire des automatismes, ou alors vous devez avoir un expert qui valide selon un critère distinct des règles d'exécution. Il faut un critère en dehors du système de production. Bon, par exemple, une machine de traduction économique, automatique entre deux langues, où vous n'avez pas de science linguistique qui permette la mise en face de façon complète, mais vous avez un critère distinct qui est l'intelligibilité. Est-ce que je comprends dans les deux langues la même chose? Et donc, ça marche. Les marchés financiers, le problème, c'est que vous n'avez pas de science financière complète et vous n'avez qu'un seul indicateur aujourd'hui qui est utilisé, c'est le risque. Et le risque, il n'est pas distinct des règles d'exécution. Il y a au contraire une expression de cette organisation. Donc, problème. Donc, la régulation par le risque, elle produit toute la palanquée de réglementation des deux côtés de l'Atlantique. Là, il n'y a pas de spécificité américaine ou française, c'est tout le monde pareil. En gestion d'actifs, c'est les règles UCIT. Les banques, c'est la gestion par le risque à partir de 94 Bâle 2, qui est une rupture conceptuelle par rapport à Bâle 1. Donc c'est ce qu'on appelle l'internal rate base, c'est-à-dire le risque déterminé de façon interne, et avec la notion de risk weight asset, donc d'actifs pondérés par le risque. très vite, on voit que ça a ses limites. Hein. Notamment, il y a un article de Danielson sur le sujet. Et aujourd'hui, c'est reconnu de façon officielle par les acteurs eux-mêmes. Jamie Dimon, c'est le directeur général de la plus grosse banque américaine, JP Morgan. Et dans sa lettre aux actionnaires de 2014, il dit « Manifestement, la Fed n'a plus confiance dans nos modèles. Ça ne marche pas, la gestion par le risque. Et c'est pour ça qu'il nous impose des stress tests à n'en plus finir et des communications de milliards de chiffres. » Et les assurances, c'est 2009, Solvabilité 2, qui rentre en application aujourd'hui, cette année, en 2016. Et c'est décomposition par module de risque de l'ensemble de notre activité et des recompositions un peu particulières. Et là, dans cette mesure de risque, la dominante, c'est le modèle gaussien, la volatilité des composants sur lesquels on travaille. Alors voilà donc le golem financier. On a voulu créer une machine qui fonctionne bien, qui laisse le choix de la liberté des modèles d'activité, et on souhaite que la régulation n'ait pas d'autre effet que de prolonger ce système. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que comme on a choisi le risque qui n'est pas un bon critère, que ce mauvais choix est bien qualifié, eh bien on a un risque de régulation. On produit ce fameux golem où le système financier échappe aux hommes de métier qui connaissent le sujet. Alors, trois exemples rapidement. Ces normalisations des opérations, là que vous voyez sur l'écran, les fonctions clés, les désignations, les comportements mimétiques, les changements de nom. Le professionnel est caractérisé par l'observation des règles et non plus par la possession d'un métier. Ça, c'est important, d'une expertise. Hein. Le professionnel, c'est celui qui observe les règles. Donc, c'est quand même un peu réducteur. Et l'erreur sur le risque, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit que les systèmes veulent ne produire que des produits sans incertitude. Et quand vous êtes dans l'ordre des promesses en matière financière, en banque ou assurance, il y a problème. Parce que le véritable intérêt de ces systèmes, je n'ai plus que 4 minutes, c'est effectivement justement assumer cette part d'incertitude. Donc les banques ne veulent faire que des prêts à taux variables et les assurances-vie que des produits à valeur de marché. Voilà, donc c'était. Alors sur le plan macroéconomique, alors en 2 minutes, c'est là aussi très simple. Par exemple, c'est le système monétaire, la création monétaire qui est en jeu. On a un système, donc Hayek et von Mises font diffuser un système qui retire aux politiques le pouvoir de création monétaire et le confie à une instance technique. Donc vous avez la citation ici, elle est aussi également dans mon ouvrage. Et on veut maîtriser cette création monétaire par un dispositif. Alors, vous avez classiquement par crédit bancaire, par émission de dette, voilà, c'est les process. Le dispositif de validation, c'est la banque centrale, c'est les indicateurs chiffrés d'activité. Vous avez un dispositif de rétroaction, c'est le coût et la décision qui implique sur la décision de crédit pour les agents privés. Et le budget et la fiscalité, si vous êtes trop en déficit et que pour l'équilibrer, vous êtes obligé d'augmenter les impôts, ça coince. Donc vous avez des contrôles qui se font automatiquement. Et c'est ces automatismes cybernétiques qui ont été mis en place depuis une quarantaine d'années. Donc on sait très bien que si on regarde les critères de Wiener, ça ne marche pas puisque vous n'avez pas de science économique complète et vous n'avez pas de critères indépendants du système. Vous n'avez que des critères qui sont extérieurs. Donc ça qualifie bien aujourd'hui cette construction technique, non pas comme un dispositif technique approprié, mais comme un discours de prise de pouvoir sur la création monétaire ou plutôt de disqualification d'un agent, de l'agent public sur la maîtrise de la création monétaire. Voilà, donc, golem monétaire, on est en plein dedans, puisque tous les objectifs de contrôle du crédit sont défaillants. On crée du crédit à n'en plus finir. La création monétaire, c'est atroce. La monétisation des dettes publiques, qui était l'horreur de l'abomination des 30 dernières années, on est en pleine application et tout le monde trouve ça normal. On ne peut plus faire de calcul économique parce que les taux étant à zéro, la science actuarielle, maintenant, c'est l'addition. Hein. La somme, la valeur actuelle d'une obligation, c'est la somme des intérêts qu'on va percevoir quand il n'y a plus de... quand les taux sont à zéro. Donc c'est très rigolo. C'est très rigolo. Enfin bon. Et puis vous avez une homéostasie sur les théories économiques, impasse technique et qui sont produits par l'impasse technique, le crédit piloté par les prix ou par l'offre, plus de sujet, la dette publique assimilable aux dettes privées, pas de, le match Friedman contre Keynes, Friedman a gagné apparemment définitivement. Les déficits commerciaux qui sont guidés par la demande solvable et non pas par la productivité, il n'y a plus de débat. Validation financière, efficacité informationnelle, il n'y a plus de sujet. Pas de prise en compte du système monétaire international. Voilà. Donc voilà, donc on est en plein dérèglement des actions de régulation qui produisent, je veux dire, n'importe quoi. Même au niveau organisationnel, par exemple, l'institution et le pouvoir, les pouvoirs qui sont transférés au Haut Comité de stabilité financière français vient perturber, on va empiler un truc parce que la gestion par le risque du système assurantiel est reconnue comme défaillant même par les autorités elles-mêmes, alors que cette autorité qui s'appelle l'ACPR aurait dû suffire à réguler l'ensemble. Conclusion, la métaphore cybermétique permet de bien, est bien opérante, on permet bien d'imaginer pourquoi est-ce qu'il y a ce golem financier qui est en train de se déployer. Pourquoi est-ce qu'il s'est créé ? Parce qu'il y a des critères qui étaient simplistes, inefficaces. Et donc, effectivement, la question, c'est est-ce qu'on veut plutôt le bien, hein, le God dans le God et le golem, ou est-ce qu'on veut le poursuivre dans la catastrophe collective du golem ? Alors, pour finir, je dirais, l'intérêt de cette métaphore donc permet bien de voir, on éclaire bien les risques de dérive, hein, avec ce simple critère, ce que j'ai... une description complète et parfaite des règles, ou est-ce que je suis dans, est-ce que j'ai un critère extérieur, ou est-ce que j'ai rien du tout, qui permet d'agir avec prudence. Et donc le point, c'est dépasser ce que j'ai appelé l'évidence d'un agir rationnel toujours possible. Je crois que c'est ça aujourd'hui le poison dans notre système, c'est qu'on croit que n'importe quelle situation peut être résolue de façon rationnelle et que c'est toujours possible de définir la rationalité qui conduit à la résolution de l'action. Ça, c'est vraiment, moi, un point central. Et donc, il faut poser l'alternative que je disais, donc le bien commun ou le golem, non seulement en termes d'éthique de la régulation, comme le disait Christian, mais aussi l'invitation à agir de façon éthique hors de toute régulation possible. Parce que si je pose que l'hypothèse de l'évidence d'un agir rationnel toujours possible n'est pas bonne, après j'ai un souci. Hein. Je ne peux pas agir dans un cadre de régulation et c'est là où il y a une véritable éthique et ce qui suppose pour moi de réintroduire la temporalité qui est mon thème d'action, enfin de réflexion depuis déjà de nombreuses années. Voilà, j'ai débordé de combien de minutes ?
Merci Hubert, non, pour la temporalité, je pense que là c'était très bien.